بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 29 du mois Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 16 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer ensemble notre apprentissage du Coran al-Karim et de ses nobles sens, ainsi que d'autres points concernant la croyance du muslim, al-Tawhid, et la connaissance des nobles compagnons et d'autres points de notre religion. Donc nous allons commencer aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, avec la lecture de Sourate Al-Ikhlas, Sourate Qul Huwallahu Ahad. Donc ceux qui aimeraient lire, comme d'habitude, ils ouvrent tout simplement le micro, et une fois que je cite leur nom, ils commencent. Barakallahu fikum. طيب نزالون كومونسي بار سند علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب بسم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت يا سند، بارك الله فيك. ما اسمك يا سند علي؟ ما اسمك؟
سند علي.
سند علي، ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب ننتقل للذي بعده، أميمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب نسيبة أو نسيبة، ما اسمك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسماء.
أسماء، اسمح لي. عفوا،
تفضل.
لا كاميرا لي فيكس ال بوش با لا شي مو بس سي باري شي لي زوتر.
Est-ce que vous voyez ma main qui bouge ?
Oui.
Alors c'est chez toi, Akhi ?
Non.
Non ? Ma main, elle bouge pas, là ?
J'ai dit, mais des fois, ça bug.
Ouais, ça bug, là.
J'ai dit, mais des fois, ça bug.
Ok, on va changer la connexion. One minute. Ça va mieux là? Y'a Issa.
Oui.
C'est de la caméra, elle est fixe chez moi.
Est-ce que chez vous, ça bouge un petit peu là?
Oui.
Ok, donc c'est chez toi.
Peut-être chez moi ça ne bouge pas, mais je vous entends bien.
Aïwa, donc le problème il vient de ma connexion. Malheureusement, elle n'est pas terrible. Taïb, je vais changer la connexion, ça va couper un instant.
Je ne bouge pas.
Là, tu bouges ou c'est moi qui bouge?
Transpire pas.
C'est toi qui bouge.
Ça va là? Et ça?
Oui.
Toujours fixe.
Toujours fixe. Bah, essaye de voir de ton côté aussi. Barakallahu fik. Tayeb, c'était au tour de qui?
Moi.
Anti Asma?
Oui.
وأختك ما اسمها؟
نسيبة.
نسيبة بالفتح ما شاء الله. أنا سو برينون سا سو دي نسيبة اي سا سو دي اوسي نسيبة. طيب vous rappelez qu'on a parlé de cette
نسيبة.
صحابية.
Oui.
ما شاء الله. يلا تفضلي يا أسماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لم يلد ولم يولد يولد قلقلة
لم ي... لم لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنتي، أنت تقرأين بورش ما شاء الله.
نعم.
أحسنتي. أختك موجودة؟ أو أنها تلعب؟
لا تريد.
الله المستعان، لماذا يا نسيبة؟ كنا نريد أن نسألك عن الاسم. خلاص إن شاء الله. طيب ننتقل إلى سمية. قبل ما تقرأين يا سمية، ما اسمك؟
Je suis la sœur de Soumaya.
Le frère, ouais.
C'est la sœur ou là le frère?
Que je...
Comment tu
Le
t'appelles déjà?
frère.
Comment tu t'appelles?
Abdullah.
Abdullah,
Abdullah.
mashallah. Abdullah, c'est le meilleur prénom, le plus aimé par Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما سأغفل
Comment s'appelle?
سمية
تفضلي يا سمية. سمية تعرفين صحابية اسمها سمية؟
نعم.
من هي؟
En fait, je connais pas trop sur elle, mais j'ai déjà entendu parler sur elle.
C'est la mère de qui? D'un compagnon très connu. Soumaya, la mère de Ammar. Non, la mère de Ammar est l'épouse de Yasir. C'est une très très grande sahabia. Et c'est le premier martyr dans l'islam. C'est Soumaya radiallahu anha. تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم أعيدي ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنتي، بارك الله فيك يا سمية.
لا أريد بارك الله.
ما اسمك؟
عبد الله.
عبد الله، تفضل يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قبل عفوا، عفوا يا عبد الله، كم بلغت من العمر؟
8 سنين.
ثماني سنوات، ما شاء الله. تفضل يا أخي.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت. طيب الذي بعد عبد الله؟ عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن، كم بلغت من العمر أنت؟
10 سنوات.
ما شاء الله. تفضل.
أنا أخو عبد الله.
أنت أخو عبد الله وأنت بلغت 10 سنة.
نعم.
تفضل. أنت أخوه الكبير.
نعم.
تؤدبه جيدا؟ تعلمه الآداب والحفاظ على الصلاة والاهتمام بالتوحيد، تعلمه كل هذا والأخلاق الحسنة؟
قليلا.
لا بد تزود شوية يعني.
قليلا.
لا بد تعلمه هذه الأشياء، عندك مسؤوليات، عندك responsabilité. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب الذي بعده.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي إسماعيل، كيف حالك؟ لباس؟
الحمد لله.
الحمد لله. تفضل يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت. فين إسحاق؟ Il est toujours timide ou quoi?
Il arrive.
Ok. Il finit son thé?
Il va faire dans un autre tour.
Ok, ça marche. Et alors, on va passer au suivant.
Mariam.
Mariam, ça va d'aller.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
ما شاء الله، اللهم بارك. من هي المرأة الصالحة التي اسمها مريم؟
لا
ها؟ مريم أمه؟
مصر.
مريم أم عيسى عليه السلام. طيب تفضل يا عبد الله أبا زيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت، لكن لكونك ما شاء الله اللهم بارك من المتقنين، فالقلقلة في آخر الآية قلقلة كبرى، لا بد أن يعني تقلقل قلقلة كبرى، لأن القلقلة إذا جاءت في أثناء الكلام تكون صغرى وفي آخر الكلام تكون كبرى. تقول قل هو الله أحد أحد، يعني تخيل في رأسك كأنها كرة تضرب الأرض وترتفع هكذا. قل هو الله أحد أحد، الله الصمد. أعد.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب خديجة، خديجة تفضلي يا خديجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا خديجة.
بارك الله.
تعرفين امرأة صحابية اسمها خديجة؟
نعم.
سكي، من هي؟
La femme du prophète sallallahu
alayhi wa sallam. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله. طيب أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم بلغت من العمر يا أحمد؟ أحمد. نعم. ارفع صوتك شوية.
10.
ما شاء الله. تفضل يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونتكلم قليلا عن هذه الصورة العظيمة، صورة الإخلاص، تسمى صورة الإخلاص، فلها أسماء كثيرة، سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد وغير ذلك، يعني حتى يعني cette سورة donc on va parler brièvement j'ai oublié quand cette سورة parmi les choses qui indiquent son importance et ses grands mérites c'est qu'elle a plusieurs noms. Elle a presque une vingtaine de noms. Parmi ces noms les plus connus c'est سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. Cette سورة il a été rapporté dans plusieurs hadiths différentes situations et moments dans lesquels nous, il est légiféré de la lire. Il est légiféré de la lire après les cinq salawats obligatoires avec قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس. Il est légiféré de la lire dans les invocations du matin, dans les invocations du soir. Il est légiféré de la lire quand on prend notre lit pour dormir. Et il est légiféré de la lire pour se soigner. C'est un remède. Le Coran, dans son ensemble, dans son intégralité, c'est un remède. Lakin, en particulier, cette sourate avec قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام quand il était malade il prenait ses mains et il se faisait une ruqya avec ses trois sourates. Il faisait comme ça, ses mains comme ça, il postillonnait trois fois, il lisait قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Il passait ses mains sur ce qu'il peut toucher de son corps. C'est un remède contre toutes les maladies du cœur, et aussi les maladies physiques, les maladies du corps. Également, cette sourate, yani, elle s'appelle sourate l'Ikhlas, car elle est réservée à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière exclusive. D'une manière exclusive. Cette sourate, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'Ikhlas. Elle est réservée exclusivement à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'appelle l'Ikhlas aussi parce que c'est une sourate qui fait rappeler la notion la plus importante en islam, qui est la sincérité, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il a été dit qu'elle s'appelle Ikhlas parce que ça sera une cause pour celui qui la met en pratique, ça sera une cause d'être préservé du châtiment. D'être préservé du châtiment. Taïb. Et par rapport à sa révélation, cette sourate a été révélée quand des associateurs ont demandé au prophète alayhi salam de décrire sa divinité, de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé cette sourate. Donc cette sourate, elle comporte la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, comme nous allons le voir. Et ça, ça a été rapporté dans plusieurs hadiths. Quand ils ont demandé au prophète de décrire son Seigneur, Allah a révélé cette sourate. Et cette sourate a énormément de mérites. Parmi ces mérites, ce que je viens de citer, c'est la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux connaître Allah, apprends cette sourate et comprends-la bien. Elle te permettra de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran le permet dans son intégralité, bien évidemment. Mais cette sourate, elle est réservée uniquement à cela. Taïb. Parmi ses mérites, c'est que celui qui aime cette sourate, ça sera une cause qu'Allah l'aime. Allah aime ceux qui aiment cette sourate. Et Allah aime ceux qui aiment le Coran, sa parole. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit « Man kana yuhibbu al-Qur'ana, fahuwa yuhibbu Allah. » Celui qui aime le Qur'an, c'est qu'il aime, ceci indique qu'il aime Allah. Celui qui aime la parole d'Allah, qui aime lire le Qur'an, qui aime mémoriser le Qur'an, qui aime comprendre le Qur'an, ceci est une preuve qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Parmi ses mérites, les plus importants, c'est que cette sourate, elle est égale à un tiers de le Coran dans sa récompense. Celui qui lit « Qul huwallahu ahad » trois fois, Allah lui donne la récompense de quelqu'un qui a lu le Coran entièrement. Vous savez, quand on lit le Coran entièrement, nous avons une récompense. Celui qui lit « Qul huwallahu ahad » une fois, Allah lui donne un tiers de cette récompense. S'il la lit trois fois, Allah lui donne la récompense de celui qui a lu le Coran entièrement. Lakin, il faut bien comprendre que celui qui lit le Coran réellement, dans son intégralité, aura bien évidemment autre récompense que n'aura pas celui qui a lu seulement Qul huwallahu ahad. Lakin, ça, c'est quelque chose qui indique son grand mérite. Le Nabi alayhi salam a juré par Allah, il a dit « Walladhi nafsi biyadihi ». إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. Quand il avait un homme qui, comme si il ne donnait pas cette importance à sourate l'Ikhlas, قُلْ وَاللَّهُ, le Nabi sallam a juré. Il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, cette sourate est égale à un tiers du Qur'an, c'est-à-dire dans la récompense. Et aussi, elle est égale à un tiers de le Qur'an dans son sens. Car le Coran, ou bien ça parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ça parle de ses ordres et ses interdits, c'est-à-dire sa législation, ou ça parle de ce qu'il a réservé à ceux qui l'ont adoré sans rien lui associer, et ce qu'il a réservé à ceux qui lui ont donné des associés. Donc le Coran, ça parle de trois grands sujets. Et donc, cette sourate, elle parle du premier tiers. Ça parle d'Allah. Donc c'est un tiers des sens du Coran. Dans ce sens-là également. Cette sourate, elle est suffisante pour celui qui l'a récitée. Avec les deux mu'awidat, قُلَ عُوذُ بِرَبِّ فَلَقْ قُلَ عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Quand il prend son lit pour dormir, s'il la récite. En faisant ce que je vous ai montré tout à l'heure, en passant les mains sur le corps, il la récite. Il postillonne trois fois. Il récite قُلْ وَاللَّهَ عَدْ قُلْ عَدْ بَرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ عَدْ بَرَبِّ النَّاسِ. Il passe sur son corps, il répète ça trois fois. Celui qui fait ça, ça sera pour lui une protection suffisante contre tout mal durant cette nuit. Et cette sourate, elle fait partie des trois meilleures sourates qu'Allah a révélées avec قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ce sont les trois meilleures sourates qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des sourates qui n'ont pas de semblable dans toutes les autres révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi a dit à un compagnon: ألا أعلمك خير ثلاث صور أنزلت في القرآن في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. Il a dit, si au messager d'Allah, il lui a dit, veux-tu que je t'enseigne les trois meilleures sourates qu'Allah a révélées dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes et dans le Coran. Il lui a dit, si au messager d'Allah, et il lui a enseigner, قُلْ هُوَ اللَّهَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc, elles font partie, toutes les trois, des meilleures sourates qu'Allah a révélées dans le Coran. Et elles n'ont pas de semblable dans les autres révélations. طيب. Et parmi ses mérites, par rapport à son sens, ça nous allons le voir dans son explication, c'est que cette sourate, elle réfute toutes les catégories d'égarements liées à la croyance. Elle montre la croyance juste et authentique, et elle réfute tous les égarements. Elle réfute l'égarement, notamment des juifs et des chrétiens, et des païens et polythéistes, et de ceux qui donnent à Allah des semblables, et qui comparent Allah à ses créatures. Elle réfute tous les égarements dans la croyance, et elle donne justement la croyance authentique. Donc, cette sourate, comme j'ai dit, elle montre la croyance authentique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle réfute toutes les catégories d'égarements, comme nous allons le voir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette sourate, donc c'est une sourate qui est mécoise. Et vous vous rappelez quelques-unes des caractéristiques des sourates mécoises. Les sourates mécoises qui sont révélées à Mecca, elles parlent de quoi souvent? Hein?
Elles parlent de Tawhid.
Tawhid, mashallah, ahsanti. Le plus souvent, elles parlent de Tawhid. Et elles parlent de aussi la prophétie. Elle parle du prophète alayhi salatu wasalam et qu'il est un vrai prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec des preuves qui le démontrent, que ce soit des preuves dans les textes ou des preuves rationnelles et avec tous les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Donc, dans le sens approximatif, Allah dit, dit Allah est l'unique. قل هو الله أحد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wa salam et à sa communauté après lui. Il leur dit à tous, dites Allah, il est l'unique. Dites-le d'une manière, dites-le d'une manière ferme. Fermez le micro. Donc il dit, dites-le d'une manière ferme dans laquelle il n'y a point de doute. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. En ayant cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il est unique dans toutes ses caractéristiques. Il est l'unique car il est le seul qui mérite l'adoration. Il est l'unique car il est le seul qui a atteint le summum de la perfection dans tous ses attributs, dans toute sa description, subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique qui a envoyé les prophètes et les messagers. Il est l'unique qui a fait descendre les livres et les révélations. Il est l'unique qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme disent les égarés parmi les chrétiens qui disent « Allah a créé Jésus ». Certains parmi eux disent ça. Ils disent « Allah a créé Jésus et Jésus a tout créé ». Et ça, c'est faux. Allah a créé Jésus, il a créé tout le reste aussi. Et d'autres chrétiens égarés disent « Allah n'est pas l'unique ». Ils sont trois divinités. C'est pour ça que je vous ai dit, cette sourate, elle réfute toutes les catégories d'égarement au niveau de la croyance. C'est pour ça qu'elle avait ce grand mérite en islam. Il a été rapporté que celui qui la lit 10 fois en une journée, Allah lui construit une maison au paradis. Et elle a d'autres mérites que je n'ai pas cités. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ أَصَّمَدْ Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il est As-Samad. Samad, c'est un nom d'Allah qu'on ne peut pas traduire par un mot. Il n'a pas d'équivalent en français. Et Samad, ça fait partie des noms d'Allah qui ont des sens extrêmement larges. Même en arabe, quand on veut expliquer Samad, on l'explique par plusieurs phrases. Et encore, on n'arrive pas à bout des sens de ce nom d'Allah, de ce nom sublime et magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Samad. As-Samad, celui qui se suffit à lui-même. Et dont toutes les créatures ont besoin de lui. À chaque instant, à chaque clin d'œil, rien ne peut exister sans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Et notre adoration ne rend pas Allah plus fort ou meilleur. Et notre désobéissance n'affaiblit pas Allah. Lakin, Allah aime l'adoration et récompense ceux qui l'adorent avec les meilleures des récompenses. Et Allah déteste le péché et il punit ceux qui commettent le péché. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid. Il n'a pas d'enfant, comme disent les chrétiens. Ils disent Isa ibn Allah. Isa est le fils d'Allah. Wal'iyadu billah. Gloire et pureté à Allah de ce qu'ils disent. Ce grand mensonge qui met en colère Allah énormément. Ou comme disent certains juifs, une secte parmi les juifs qui disent que Uzair ibn Allah. Pas tous les juifs disent ça. Lakin, il y a une secte parmi les juifs qui disent que Uzair est le fils d'Allah.
Et Allah n'a pas engendré, n'a pas d'enfant, n'a pas d'épouse, n'a pas de père, n'a pas d'ascendant ni de descendant. Allah, il est le créateur unique, subhanahu wa ta'ala, qui se suffit à lui-même. Il est l'être suprême de son existence, dépend toute existence. Allah, subhanahu wa ta'ala, a toujours existé. Il n'a pas de début, ni de fin. Son existence n'a pas de début. Par contre, nous, les êtres humains, il y a un jour où on est né. On est sorti dans ce monde. Et il viendra le jour de la fin de notre vie, à tous. La mort est une vérité à laquelle personne n'échappe. Lakin, la joie, toute la joie, et le succès, tout le succès, est pour le croyant qui a passé sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort, Allah lui accorde le paradis. Donc en réalité, sa mort, c'est le début de la vraie vie, de la vie éternelle. Et c'est la fin de son épreuve dans ce monde. Et malheur, tout le malheur au mécréant qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a renié son existence et qui a voué l'adoration à autre que lui, malheur à lui. Car la mort sera le début de ses calvaires et de son châtiment. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Allah, il est l'unique. Donc vous voyez comment ce verset, il réfute toute la croyance des chrétiens qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trois divinités. Ils disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Trois divinités. Donc c'est plus du monothéisme, c'est de la Trinité. C'est du shirk. Allah, il est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il n'y a qu'une seule divinité. Et tout le reste, ce sont ses créatures. Y compris Isa, qui est une créature d'Allah. Certes, Isa, il a été créé d'une façon miraculeuse. Allah est capable de tout. Allah l'a créé sans père. Il l'a créé à partir d'une mère seulement, qui est Maryam, fille de Imran. Lakin Allah a créé d'une manière plus miraculeuse encore. Notre père à tous, Adam, il l'a créé sans père ni mère. Il l'a créé à partir de la terre. Et il a créé notre mère, Ève, Hawa, de notre père, Adam. Sans père, sans mère, non plus. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il est capable de toutes choses. Il est l'omnipotent. Et ce n'est pas parce que Isa a été créé de cette façon que c'est devenu une divinité. La divinité, elle est unique. C'est Allah. Tout le reste, y compris notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim, le prophète Ismaïl, tous les prophètes sans exception sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, Allah dit « Lam yalid wa lam yulad ». Et ensuite, il dit « Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ».« Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ». Allah, il est le riche par excellence. Il est celui qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir un enfant. Il n'a pas besoin d'épouse. Il est l'unique, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas comme nous. Ces créatures qui sont faibles et qui sont dépendantes de lui. Allah, il se suffit à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Personne n'est égal à Allah. Ni dans les droits qui lui reviennent à lui seul, notamment le droit de l'adoration. Personne n'est égal à Allah dans sa force. Personne n'est égal à Allah dans sa grandeur. Personne n'est égal à Allah dans ses noms et ses attributs. Personne n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans aucune de ses caractéristiques qui lui sont propres. Il est l'unique. Qul huwallahu ahad. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière résumée sur cette sourate, malgré qu'elle comporte uniquement 4 versets et qu'elle soit une courte sourate, en une ligne, elle réfute toutes les croyances égarées et elle donne la vraie croyance. Qul huwallahu ahad. C'est pour ça qu'il y avait un sahabi qui aimait énormément cette sourate, au point où il ne pouvait pas faire une salah sans la réciter. Il la récitait d'abord et ensuite il récitait une autre sourate. Le prophète, il récitait une seule sourate. Ce sahabi, il aimait bien réciter toujours Qul huwallahu ahad et ensuite il récitait une autre sourate. Et comme c'était quelqu'un de très pieux, qui avait beaucoup de science, c'est pour ça qu'il a compris l'importance de cette sourate. Les sahaba, quand ils étaient en voyage, ils le désignaient pour diriger leur salawat, pour faire imam. Et lui, quand il faisait imam, et quand c'était des salawat à haute voix, il récitait Qul huwallahu ahad, et ensuite il récitait une autre sourate. Ils lui ont dit, ou bien tu te contentes de réciter Qul huwallahu ahad, ou tu récites une autre sourate. Mais tu ne récites pas 2 sourates. Car Nabi Aslam, il récitait une seule sourate. Ils lui ont dit, tu récites une seule. Il leur a dit, je ne peux pas, parce que j'aime cette sourate. Je la récite tout le temps. Et si vous voulez, choisissez une autre personne pour faire imam. Et moi, je me mettrai dans le rang. Lakin Huma, ils ont insisté parce qu'ils voulaient que ce soit lui l'imam, pour son mérite. Mais ils ne voulaient pas qu'il récite 2 sourates, une seule à la fois. Et donc, ils les ont laissés faire. Jusqu'à leur retour de voyage, ils ont exposé la situation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit au messager d'Allah, voilà ce que ce sahabi fait. Nabi alayhi wa sallam leur a dit, demandez-lui pourquoi il faisait ça. Ils lui ont demandé. Il leur a dit, parce que c'est la description d'Allah et j'aime cette sourate. Il leur a dit, annoncez-lui qu'Allah l'a aimé à cause de son amour pour cette sourate. Allahu Akbar. C'est pour ça, parmi ses mérites, les mérites de cette sourate, c'est que celui qui l'aime, Allah l'aime. Et celui qui aime le Coran d'une manière générale, Allah l'aime. Lakin ça, c'est spécifique aussi à cette sourate. Taïb. Donc, on va passer à nos questions sur la croyance. La dernière fois, je pense qu'on a fait la question Marabbouk. Donc si je vous demande pourquoi nous étudions la science de l'unicité d'Allah, quelle est votre réponse?
Pour différencier le faux du vrai.
Masha'Allah, masha'Allah, Allahumma barak. Excellente réponse. Une autre?
Pour bien connaître Allah.
Pour bien connaître Allah. Réponse parfaite. Et par conséquence, quand tu connais bien Allah, pour mieux l'adorer aussi. Car l'adoration d'Allah se perfectionne avec la connaissance d'Allah. Tu sais qui t'adore. Tu es ferme dans ta religion. C'est pas tu fais la salat parce que tes parents te voient ou là te surveillent ou là tu veux pas que les gens pensent du mal de toi. Non. Tu fais pour Allah parce que tu le connais. T'aimes faire pour lui. Et ça vient avec l'étude de Tawhid. Taïb. D'où nous prenons notre croyance quelles sont les sources principales?
Vous pouvez... On dit Coran de la Sunna.
Coran, la Sunna, Ahsantum. Et aussi de les comprendre, comme ils étaient compris par les compagnons. C'est très important. Il ne suffit pas de prendre le Coran et de l'interpréter comme tu veux. Non. Le Coran et la Sunna, et de les comprendre comme ils étaient compris par le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons. Oui. Quelles sont les trois questions qui te seront posées dans ta tombe? MashaAllah. Allahumma barik. Parfait. طيب
من ربك
احسنتم من ربك ما دينك من نبيك
من
ما شاء الله سي بارفي اللهم بارك طيب une autre question si on te dit comment t'as connu ton seigneur comment tu réponds comment t'as connu Allah tu l'as connu par quoi ماشاء الله بآياتي ومخلوقاتي تو تو ميموريز ثلاثة الأصول اللهم بارك بآياتي ومخلوقاتي on connaît Allah par ses créatures quand tu vois le chameau ça t'indique pas la grandeur de celui qui l'a créé quand tu te vois toi-même déjà regarde comment Allah t'a créé les yeux à leur place, les oreilles à leur place, la bouche à sa place. Imagine si tu avais une bouche là. Comment tu ferais pour manger? Regarde comment Allah, il a créé chaque chose à sa place, à la perfection. Tu ne peux pas faire mieux que comme Allah a fait. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous connaissons Allah par ses créatures. Quand tu vois, comme l'exemple que je vous ai donné la dernière fois, quand tu vois un téléphone très sophistiqué. Ça t'indique que celui qui l'a fabriqué a du génie, a du savoir-faire. Quand tu vois une chose qui est bien faite, tu sais que celui qui l'a fait, il a du savoir, il a de la capacité, il a de la force, il a de la science pour pouvoir faire ces choses-là. Il a de la sagesse. Donc regarde comment ça t'indique tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on connaît Allah par ses versets. Le Coran et la sunna du prophète alayhi salam. Ferme ta caméra. Ferme ta caméra. Ya. Taïb. On connaît Allah aussi par le Coran. En lisant le Coran et en le comprenant, vous avez vu, on a pris un exemple d'une des sourates les plus courtes dans le Coran et comment elle nous a permis de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que dire de l'ensemble du Coran? Allahu Akbar. Taïb, si je te dis, Aïn Allah?
Allah.
Fawq al-sama. في السماء فوق العرش على العرش استوى فوق العرش toutes des bonnes réponses mashallah Allah il est très haut par son essence et il est partout par sa science ouf يا اخي Allah subhanahu wa ta'ala par son essence, il est très haut, plus élevé que toutes ses créatures. Il est établi sur son trône. Lakin, Allah, il n'est pas comme...
Assalamu
alaikum. Salam. Lakin, Allah, il n'est pas comme ses créatures. Moi, si je suis avec vous aujourd'hui ici, je ne peux pas être ailleurs. Allah, il est établi par son essence sur son trône et sa science, elle est partout. Il voit tout. Il sait tout. Il sait même ce que tu ne montres pas. Il entend tout. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ça, c'est la réponse à Aïn Allah. Qui connaît un verset qui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très haut, il est dans le ciel, établi sur son trône. Qui connaît un verset?
Ayat al-Kursi.
سبح اسم ربك الأعلى. Excellent réponse. Encore.
سبح اسم ربك الأعلى.
ما شاء الله. أحسنت. سورة الملك. أأمنتم؟
أأمنتم
من في السماء؟
أرسل عليكم حاصبا.
إذن ça c'est aussi un verset qui indique qu'Allah il est au-dessus des cieux. Fissama, yani au-dessus du ciel. Également dans Surah Taha, Ar-Rahmanu, ala al-Arshi, ala al-Arshi Sawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Taïb, voilà pour aujourd'hui par rapport à ces questions. Nous allons passer à la biographie. Alaykoum salam. Tafaddali ya.
Assalamu alaykoum.
Wa alaykoum salam ya Fatima. Oh, enta Abd al-Rahman.
Assalamu
alaykoum. Tafaddali ya boy. Aish fi. Tayeb. Nous allons parler d'une sahabiya ou peut-être de plusieurs même. Sahabiya de laquelle nous allons parler, elle s'appelle Rufayda al-Aslamiya. Rufayda al-Aslamiya radiallahu anhu. Donc elle est de la tribu de Bani Aslam, parmi les tribus médinoises. Donc c'est une médinoise, une ansariya, et non pas une mécoise. Elle est entrée en islam après l'émigration du prophète alayhi salam vers Médine, radiyallahu anha wa ardaha. Elle est entrée après l'émigration du prophète alayhi salam vers Médine. Et elle lui a fait le pacte d'allégeance. Le prophète alayhi salam, quand il faisait le pacte d'allégeance aux femmes, est-ce qu'il leur serrait la main, comme il faisait avec les hommes, ou pas?
Non.
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 Ça se faisait avec quoi?
Avec les hommes.
Ça se faisait avec la parole seulement, avec les femmes. Avec les hommes, avec la main également. Car le Nabi Assalam n'a jamais serré la main à une femme qui ne fait pas partie de ses maharim. Il serrait la main à ses épouses, et ainsi de suite. Lakin, les femmes étrangères, jamais le prophète Assalam n'a touché la main d'une femme étrangère. Taïb. Donc, Rufayda radiallahu anha, elle avait une particularité. Déjà, c'est une femme qui avait les moyens. Elle avait un peu d'argent et de richesse, radiallahu anha. Et Rufayda, elle avait une spécialité. Elle a appris comment soigner les blessés et soigner les malades. Donc, c'est pour ça que certains disent d'elle que c'est la première infirmière en islam. C'est une femme qui soignait les malades et les blessés. Et elle n'était pas la seule à le faire. Il y avait plusieurs sahabiyettes qui faisaient cela. Parmi ces sahabiyettes, il y avait Umm Sulaym. Umm Sulaym, radiallahu anha. Al-Rumaysa bint Milhan. La mère de Anas. Elle aussi, elle soignait les malades. Et il y avait aussi Umm Atiya, qui lavait aussi les morts. Umm Atiya, quand il y avait une femme qui décède, elle faisait partie des femmes qui lavaient les femmes. Donc ça nous donne une idée que la femme en islam, elle peut avoir des métiers comme ça qui l'aident et qui lui permettent d'aider sa communauté. Et c'est important qu'il y ait des femmes qui savent faire le lavage mortuaire des femmes. S'il y a une femme qui décède dans une ville et qu'aucune femme ne sait laver, on va devoir avoir recours à un homme pour la laver. Et normalement, ce n'est pas autorisé. Lakin, on sera contraint de le faire car il n'y a pas de femme. Avec des conditions, bien évidemment. Lakin, d'où l'importance que les femmes apprennent ces choses-là et les enseignent et les propagent. Car Rufayda, radiallahu anha, étant donné que c'est la première qui s'est en quelque sorte spécialisée en ça, c'est pour ça que Nabi Sallallahu Alayhi, quand il sortait dans ses batailles, il l'accompagnait avec lui. Il accompagnait aussi souvent Umm Sulaym, Al-Rumaysa ibn Milhan, la mère de Anas. Et même Nabi Sallallahu Alayhi Sallam a ordonné à ce qu'on fasse pour Rufayda radiallahu anha une tente à l'intérieur de la mosquée pour soigner quelques blessés, notamment quand le grand compagnon Saad ibn Mu'ad s'est blessé. Et Nabi Islam, il voulait qu'il reste proche de lui. Donc il leur a dit de faire une tente dans la mosquée pour Saad ibn Mu'ad afin que la sahabiya Rufayda radiallahu anha puisse le soigner de sa blessure. Et finalement, Saad ibn Mu'ad, comme vous savez, je ne sais pas si on a déjà parlé de lui, lakin, il est décédé suite à cette blessure. Il est décédé, radiyallahu anhu arda. Donc, Rufayda, radiyallahu anha, non seulement a soigné les blessés, mais a enseigné ce métier aux femmes. Et c'est pour ça qu'elle a formé plusieurs femmes capable de soigner les blessés et de soigner les malades. Et elle avait utilisé une partie de sa fortune dans cet objectif. Elle avait du matériel, elle avait certains médicaments. Radiyallahu anha wa ardaha. Parmi les sahabiyats qui faisaient ça aussi, comme je vous ai dit, Ar-Rubay'u bint Mu'awwidh. Ar-Rubay'u bint Mu'awwidh. Elle faisait ça aussi. Et parmi les sahabiyats aussi, Al-Ghumaysa bint Milhan, qu'on a surnommé Umm Sulaym. Et Umm Sulaym, c'est une femme, yani, un peu comme Rufayda al-Ansariya radiallahu anha. Ce sont des femmes exceptionnelles, d'un très très grand courage. C'est des femmes qui sortaient avec le prophète alayhi sallam lors de ses batailles. Et elles s'exposaient ainsi au danger. Bien évidemment, elles participaient pas dans la bataille. Lakin, elles remplissaient cette mission de soigner les blessés parmi les compagnons et de soigner les malades, radiyallahu anhum. Et donc, Umm Sulaym, c'est parmi les premières femmes des Médinois qui sont entrées en Islam. Umm Sulaym, une des premières. Et quand on a parlé de Anas ibn Malik, je vous avais dit que Umm Sulaym a ramené son fils à l'âge de 10 ans pour être au service du prophète, alayhi salam. Elle lui a dit, voilà mon fils, je te le ramène, il est à ton service. Regardez le choix excellent de cette femme. Comment elle a permis à son fils d'être très proche du prophète et de profiter énormément de lui. C'est pour ça Anas, il fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadith du prophète. Et Umm Sulaym, elle était mariée avec un homme avant l'islam qui s'appelle Malik ibn al-Nadr, le père de Anas. C'est pour ça que c'est Anas ibn Malik, ibn al-Nadr. Son mari, quand Umm Sulaym est entré en islam, il a détesté ça. Il n'a pas voulu devenir musulman. Et il l'a abandonné, il est parti. Il est mort, comme ça. Après, Umm Sulaym s'est présenté pour la demander en mariage à un autre homme qui était aussi mécréant à ce moment-là. Et là, c'était avant qu'Allah n'ordonne, j'ai un doute, c'est pour ça que je ne vais pas le dire, j'ai un doute. Est-ce que c'est avant qu'Allah ordonne, qu'Allah interdise le mariage avec les mécréants et les mécréantes ou après? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Abu Talha, quand il s'est présenté pour demander la main de Umm Sulaym, après la mort de son mari qui a détesté son islam, Umm Talha lui a dit, t'es un homme yani, qui ne se refuse pas. Mais je suis une femme croyante. Je crois en Allah. Regardez, yani, regardez un exemple pour les femmes et pour vous, les jeunes filles, de comment doit réfléchir une femme croyante. Quels sont les critères pour elle? Elle lui a dit, t'es un homme yani, auquel il n'y a rien à reprocher. T'es un homme qu'une femme souhaite épouser. Mais par contre, il y a juste un petit point. Il y a juste un point qui va m'empêcher d'accepter. Donc si tu peux le régler, ça peut se faire. Elle lui a dit, je suis une femme croyante. Et toi, tu es un homme mécréant. Donc si tu veux m'épouser, deviens musulman. Et ton islam sera ma dot. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas une dot. Que tu me ramènes 100 chameaux. Ou que tu me donnes 1 kilo d'or. Ou des bijoux. Si tu veux m'épouser, deviens musulman. Et ton entrée en islam me suffit comme dot. Lui, il n'a pas voulu accepter tout de suite. Il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Comme ça, regardez cet homme intelligent et après c'est devenu un compagnon, un grand compagnon, Abu Talha radiallahu anhu. Il a dit, laisse-moi réfléchir. Yani, c'est pour ça que tu n'entres pas en islam pour épouser une femme, parce que ça, ce n'est pas valide. Tu entres en islam pour Allah. C'est pour ça lui, il lui a demandé un temps de réflexion pour savoir pourquoi il va entrer en islam. Et est-ce qu'il arrivera à la certitude que l'islam, c'est la vérité? Ferme ta caméra, Yahri. J'espère que c'est la dernière fois que tu vas l'ouvrir. Sinon, je vais te supprimer. Barakallahu fik. Taïb. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Naam. Donc, Abu Talha n'a pas voulu donner sa réponse tout de suite. Il a demandé un temps de réflexion. Et après réflexion, et après avoir vu ce que c'est cette religion, qui est la religion de l'islam, il a su que c'est la vérité. Il est venu, il lui a annoncé son entrée en islam, et suite à cela, Umm Sulaym a demandé à son fils Anas de la marier à cet homme, Abu Talha radiallahu anhu. Et c'est Anas qui l'a marié. C'est lui son tuteur. Vous savez, le tuteur d'une femme, c'est son père. Muslim. Et si elle n'a pas de père musulman, c'est son grand-père musulman. Et si elle n'a pas de grand-père du côté du père, tous les tuteurs de la femme sont du côté du père seulement, pas du côté de la mère. Et si elle n'a pas de grand-père musulman, alors son tuteur, c'est son fils. À condition qu'il soit pubère et capable de contracter un mariage, et il comprend ces choses-là. D'accord? Donc, elle a demandé à Anas de la marier. Et effectivement, c'est Anas qui a marié sa mère à Abu Talha, radiallahu anhu. Donc, Umm Sulaym, également, le Nabi, alayhi salam, nous a informé dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim que le prophète alayhi salam, lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, quand il est entré au paradis, il a vu une femme et c'était Al-Rumaysa bint Milhan, Umm Sulaym. Il l'a vu au paradis, donc c'est une femme du paradis. Également, Nabi al-Sallam, il aimait bien rendre visite à Umm Sulaym. Il lui rendait visite. Et elle lui mettait un tapis sur lequel il s'asseyait avec les sahabas qui l'accompagnaient. Et elle lui présentait ce qu'elle pouvait comme nourriture. Il aimait bien lui rendre visite. Radiallahu anhu. Et Umm Sulaym, c'est d'elle que c'est rapporté que quand Nabi al-Sallam, des fois, quand il faisait la sieste, chez elle, il suait. Et elle profitait, elle prenait sa sueur et elle la mélangeait à des bouteilles de parfum avec lesquelles elle se parfumait. Et elle les donnait à d'autres sahabiyas. Et Nabi Asadam un jour lui a dit, qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit, je prends ta sueur et je l'utilise avec mon parfum. Radiallahu anha wa ardaha. Voilà quelques éléments concernant cette sahabiya, Rufayda, l'Ansariya, qui est la première sahabiya, la première femme qui a rempli cette fonction de femme infirmière. Et qui, comme j'ai dit, qui a même formé d'autres sahabiyat à ce métier. Donc, il n'y a pas de mal à ce que la femme ait un métier comme ça, dans lequel elle contribue dans sa communauté. Elle contribue dans sa communauté. Et ça lui donne aussi de l'importance et de la valeur dans la société. Et elle aide ses sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, il y a un point très important. Malheureusement, quand on demande à certaines femmes qui sont femmes au foyer, quand on leur demande quel est votre métier, quel est votre emploi, qu'est-ce qu'elles répondent certaines ? Elles disent « Je suis sans emploi ». Qu'est-ce qu'elles disent ? Je suis sans emploi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le problème dans cette réponse ?
Ça veut dire qu'elle travaille pas.
Est-ce que ta mère qui est à la maison, est-ce qu'elle travaille pas ?
Elle travaille.
Je parle pas de ceux. Naam, elle travaille continue.
Dans mon foyer, elle travaille.
Elle travaille.
C'est un travail.
C'est un travail, mashallah, Allahumma barik. Tu t'appelles comment ?
Nusayba.
Ça m'étonne pas que tu répondes comme ça, Nusayba, Allahumma barik. Yani, Nusayba, est-ce que tu sais qui est Nusayba parmi les femmes ? Ils disent c'est la porte-parole des femmes, celle qui défendait les intérêts des femmes. Lakin, pas comme les féministes aujourd'hui, qui veulent sortir la femme de l'islam. Sous prétexte qu'elle défende ses droits. Mais en réalité, elle ne défend pas les droits de la femme. Lakin Nusayba radiallahu anha, c'était une femme qui cherchait les intérêts des femmes. C'est pour ça qu'elle a dit un jour, il est rapporté, malgré que dans le hadith il y a une faiblesse, mais il est rapporté qu'un jour, elle est venue voir le prophète sallam et lui a dit au messager d'Allah, les hommes, ils assistent à la prière, à la salat en groupe, les hommes font le djihad, les hommes font ça. Et nous, les femmes, on ne fait pas ça. Nabi Asadam lui a dit, tu fais une chose qui égale tout ce que tu as cité et encore plus. Allahu Akbar. C'est pour ça que ta réponse, elle est parfaite. La femme au foyer qui travaille, c'est un travail. Et c'est même, écoutez bien, c'est pas seulement un travail. C'est le travail le plus méritoire, le plus noble pour une femme. Et le meilleur. Elle est meilleure que la femme qui gère une centaine de multinationales, de grandes entreprises. Elle est meilleure que elle. Dans le mérite du travail, on ne parle même pas de la récompense auprès d'Allah. C'est une femme qui fait un travail pour former une famille, grandir des enfants, élever des enfants pieux et vertueux qui vont contribuer dans le bien de la communauté. Est-ce qu'il y a un travail plus méritoire que celui-là ? Bien évidemment, ça n'existe pas pour une femme. Une femme au foyer, elle travaille et elle fait le meilleur du travail, le meilleur travail qui existe pour une femme. Si elle fait autre chose à côté, elle fabrique des produits, elle les revend, ou là, des choses comme ça. Et ça, c'est, il n'y a pas de mal. Lakin, rien n'arrive au mérite de ce premier travail. C'est pour ça qu'une femme au foyer, ce n'est pas une femme sans emploi. c'est une femme avec le meilleur emploi qui existe. Et wallahi, sachez qu'il n'y a pas un emploi meilleur que celui-là. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'elle fasse autre chose si jamais elle arrive à gérer. Il y en a des fois, c'est difficile quand la femme a plusieurs enfants. C'est presque impossible de pouvoir remplir cette fonction noble et méritoire qui est de s'occuper de sa famille et de faire autre chose à côté. C'est pour ça que c'est le rôle du père de ramener tout ce qu'il faut à la maison. Et la femme, son emploi, c'est de s'occuper de l'éducation de ses enfants, de veiller sur eux, et ainsi de suite. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Hafidhakumullah. وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام. وعليكم السلام. تفضل.
وعليكم السلام. تفضل. عليكم.
عليكم السلام.
Oustaz, j'ai une question.
Tfadal, celui qui a une question, est directement. Tfadal.
Est-ce que si on lit surat, est-ce que si on lit la surat, on a la même récompense que si on la récite?
On lit, on récite, c'est la même chose. Lakin, peut-être toi, tu veux dire par réciter la psalmodie. Yani la réciter d'une manière comme certains d'entre vous font. الحمد لله رب العالمين. C'est ça? Avec une belle voix.
Oui.
Embellir ta voix. Embellir ta voix en récitant le Coran est meilleur dans la récompense. Car Allah aime celui qui embellit sa voix en récitant le Coran. Donc c'est meilleur.
Maalim, est-ce que Asma Lafide a soigné les malades pendant la guerre? Barakallahu fik.
Est-ce que Asma bint Abi Bakr Siddiq, dhatun nitaqayn, je me rappelle pas qu'elle soignait les malades, lakin elle avait d'autres choses. C'est pour ça, ça peut être une des femmes de laquelle on parlera inshallah prochainement. Asma bint Abi Bakr Siddiq, l'épouse de Zubayr ibn al-Awwam, qui était surnommée Dhatun Nitaqayn. Elle a aidé le prophète alayhi salam ainsi que son père lors de leur émigration vers Médine. Lakin, j'ai pas en tête maintenant qu'elle soignait les malades. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Tfaddal akhi.
Est-ce que la femme
Naam, tfaddal.
Est-ce que les femmes, elles doivent se voiler devant les oncles maternels?
Non. Celui qui a parlé avant toi, c'est qui? Et qui avait une toute petite voix. S'il peut hausser plus sa voix pour qu'on l'entende.
Est-ce qu'il y a des cours d'arabe en ligne?
Est-ce qu'il y a des cours d'arabe? Pour le moment, il n'y a pas. Lakin, j'espère qu'on puisse le faire. Ou là, de trouver quelque chose pour le faire. Lakin, essayez de voir avec vos parents. Ils peuvent trouver autre chose en attendant. Barakallahu fik. Tfadal.
Ce sera quel compagnon qu'on va parler la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va choisir un homme. Je ne sais pas, on a parlé de qui. Attends, je vais regarder de qui on a parlé jusqu'à maintenant parmi les hommes. Parmi les 10, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Saïd ibn Zayd. On parlera, Inch'Allah, de Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nawfal, un des 10 annoncés au paradis. Et ça sera le dernier des 10.
Barakallahu fikoum.
Fikoum barakallahu. Taïb,
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.